Mayer prend son courage à deux mains et publie son Silentium post-clamores et soutient que la confrérie existe, que non seulement elle est liée à la Toison d'Or, mais aussi à l'ordre de la Jarretière. Lui, cependant, est une personne trop humble pour y être reçue. Pense un peu les doctes d'Europe. Si ces gens n'acceptent même pas Mayer, il s'agit d'une chose vraiment exclusive. Et donc, toutes les demi-portions font de faux papiers pour être admises. Toutes de dire que les Rose-Croix sont une réalité, toutes d'avouer de ne les avoir jamais vues, toutes d'écrire comme pour fixer un rendez-vous, pour quémander une audience, personne n'a tout de même le culot de dire « j'en suis ». Certains disent qu'ils n'existent pas, parce qu'ils n'ont pas été contactés, d'autres disent qu'ils existent justement pour être contactés. Et les Rose-Croix, muets, comme des carpes. Ouvre la bouche, il te faut de la mamaya. Un délice. En attendant débute la guerre de 30 ans et Johann Valentin Andrea écrit une Turris Babel pour promettre que dans l'année, l'Antéchrist sera vaincu, tandis qu'un certain Irénéus Agnostius écrit un Tintinnabulum Sophorum. Super le Tintinnabulum, où je ne comprends pas ce que foutre il dit, mais il est certain que Campanella ou quelqu'un à sa place intervient dans la monarchie espagnole et dit que toute l'histoire Rose-Croix est un divertissement d'esprit corrompu. Et puis ça suffit. En 1621 et en 1623, ils arrêtent tous.
Comme ça ?
Comme ça. Ils se sont lassés, comme les Beatles. Mais seulement en Allemagne. Parce qu'on dirait l'histoire d'un nuage toxique. Ils se déplacent en France. Par une belle matinée de l'an 1623, apparaissent sur les murs de Paris des manifestes Rose-Croix, qui avertissent les bons citoyens que les députés du collège principal de la confrérie se sont transférés là-bas et sont prêts à ouvrir les inscriptions. Cependant, selon une autre version, les manifestes disent clair et net qu'il s'agit de 36 invisibles dispersés de par le monde en groupes de 6 et qui ont le pouvoir de rendre invisibles leurs adeptes. Créneau. De nouveau les 36.
Lesquels ?
Ceux de mon document des Templiers.
Des gens sans imagination. Et puis ?
Et puis il en découle une folie collective. Qui les défend, qui veut les connaître, qui les accuse de diabolisme, alchimie et hérésie, avec Astaroth qui intervient pour les rendre riches, puissants, capables de voler en un clin d'œil d'un lieu à un autre, bref, le scandale du jour.
Rusé, c'est Rose-Croix. Il n'y a rien de tel qu'un lancement à Paris pour devenir à la mode.
On dirait que tu as raison parce que, écoute un peu ce qui se passe. Mamma mia, quelle époque! Descartes, lui en personne, au cours des années précédentes, s'était rendu en Allemagne et les avait cherchés. Mais son biographe dit qu'il ne les avait pas trouvés, car, nous le savons, il circulait sous des apparences trompeuses. Quand il revient à Paris, après l'apparition des manifestes, il apprend que tout le monde le considère comme un Rose-Croix. Par les temps qui couraient, ça n'était pas une belle renommée. Et ça ennuyait aussi son ami Mersenne, qui, contre les Rose-Croix, tempêtait déjà en les traitant de misérables, subversifs, magiciens, kabbalistes, dont la seule intention était de semer des doctrines perverses. Et alors, qu'est-ce qu'il va te combiner, le Descartes ?
Il se fait voir à droite et à gauche, partout où il peut.
Et puisque tout le monde le voit, et c'est incontestable, c'est signe qu'il n'est pas invisible, donc pas Rose-Croix.
Ça, c'est de la méthode.
Il ne suffisait certes pas de nier, ils avaient fait les choses de telle sorte que si un type venait à ta rencontre et te disait « Bonsoir, je suis un Rose-Croix », c'était signe que tu ne l'étais pas. Le Rose-Croix qui se respecte ne le dit pas. Mieux, il le nie à voix bien haute.
Mais on ne peut pas dire que celui qui affirme n'être pas un Rose-Croix l'est forcément. Parce que moi je dis que je ne le suis pas, et ce n'est pas pour ça que je le suis.
Mais le nier est déjà un indice suspect.
Non. Car que fait le Rose-Croix quand il a compris que les gens ne croient pas ceux qui disent l'être et soupçonnent ceux qui disent ne l'être pas? Il commence à dire qu'il l'est, pour faire croire qu'il ne l'est pas.
Diable! Alors dorénavant, tous ceux qui disent être Rose-Croix mentent et par conséquent, ils le sont vraiment. Oh non, Amparo, ne tombons pas dans leur piège. Eux, ils ont des espions partout, jusque sous ce lit. Et donc, ils savent désormais que nous savons. Donc, ils disent qu'ils ne le sont pas.
Mon amour, à présent, j'ai peur.
Sois calme, mon amour. Je suis ici, moi qui suis stupide. Quand ils disent qu'ils ne le sont pas, moi, je crois qu'ils le sont. Et comme ça, je les démasque tout de suite.
Le Rose-Croix démasqué devient inoffensif. Et tu le fais sortir par la fenêtre en agitant le journal. Et Aglié, Lui, il tente de nous faire croire qu'il est le comte de Saint-Germain, évidemment, afin que nous pensions qu'il ne l'est pas. Donc, il est Rose-Croix ou non?
Écoute, Amparo, on dort?
Ah non, maintenant je veux entendre la fin.
Bouillie générale, tous Rose-Croix. En 27 paraît la nouvelle Atlantide de Bacon, et les lecteurs pensent qu'il parlait du pays des Rose-Croix, même s'il ne les nommait jamais. Le pauvre Johann Valentin Andrea meurt en continuant à se parjurer, ou ça n'avait pas été lui, ou si ça avait été lui, c'était pour rire, mais maintenant la chose est faite. Avantagés par leur non-être, les Rose-Croix sont partout.
Comme Dieu.
À présent que tu m'y fais penser... Voyons, Mathieu, Luc, Marc et Jean sont une bande de joyeux compères qui se réunissent quelque part et décident de faire un concours, inventent un personnage, établissent un petit nombre de faits essentiels et puis allez, pour le reste, chacun est libre. Et puis, on voit qui a mieux fait. Après quoi les quatre récits finissent dans les mains d'amis qui commencent à pontifier. Mathieu est assez réaliste, mais il insiste trop avec cette affaire du Messie. Marc n'est pas mal, mais un peu désordonné. Luc est élégant. Il faut bien l'admettre, Jean exaspère avec la philosophie. Mais en somme, les livres plaisent, circulent de main en main. Et quand les quatre hommes se rendent compte de ce qui se passe, il est trop tard. Paul a déjà rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Pline commence son enquête sur ordre de l'empereur Soucieux. Une légion d'apocryphes font semblant d'en savoir long eux aussi. Toi, apocryphe lecteur, mon semblable, mon frère. Pierre se monte la tête, se prend au sérieux. Jean menace de dire la vérité. Pierre et Paul le font capturer, on l'enchaîne dans l'île de Patmos. Et le pauvre commence à avoir des visions. Il voit les sauterelles sur le montant de son lit. Faites taire ces trompettes. D'où vient tout ce sang? Et les autres de dire qu'il boit, que c'est l'artériosclérose. Et si ça s'était vraiment passé comme ça?
Ça s'est passé comme ça. Lis Feuerbach au lieu de tes vieux bouquins.
Amparo, c'est l'aube.
On est fou.
L'aurore aux doigts de Rose-Croix caresse doucement l'onde.
Oui, il fait comme ça. C'est Yemanja. Écoute, elle vient.
Fais-moi des loups d'Ibriard.
Oh, le Tintinnabulum.
Tu es mon Atalanta Fugiens.
Oh, la Touris Babel.
Je veux les arcana arcanissima, la toison d'or pâle et rose comme un coquillage marin.
Chut.
Silentium post clamores, dit-elle.